Question d'islam par Ghalib Ben Sheikh. Aujourd'hui, nous parlons des lumières et de l'islam. Des lumières au sens de l'Aufklärung, en tout cas les premières lumières. Et j'ai plaisir à recevoir Hadia Wartani Khadar, qui a écrit, c'est son dernier ouvrage, « Les lumières et l'islam, quelle altérité pour demain ?» chez l'Harmattan. Ça nous servira comme base de discussion aujourd'hui. Hadia Wartani Khadar est professeure émérite de l'université de Tunis. Elle est aussi associée aux universités de Rouen, Grenoble et Paris 3. Vous êtes directrice, chère Hadia Wartani Khadar, de la collection classique francophone, à distinguer des classiques français, chez l'Harmattan toujours. Et quelle est cette idée d'écrire à propos des relations entre l'Aufklärung, donc ce siècle des Lumières tout particulièrement, et l'islam écrit avec grand I, avec I majuscule, donc la civilisation islamique?
D'abord, ce travail est un bilan de recherche que j'ai entamé depuis les années 80. Dans la mesure où moi j'étais spécialiste des Lumières, ce qu'on appelait dans le temps 18e-iste, j'ai travaillé donc sur le siècle des Lumières d'une manière générale.
Vous avez une thèse qui a porté sur Diderot.
Voilà, Diderot et l'actualité politique sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'événement, la politique, l'opinion publique au XVIIIe siècle. Et dans cet ensemble donc de travail, j'ai orienté la recherche surtout auprès de la société tunisienne du XVIIIe siècle sur les lectures que pouvaient faire les philosophe des Lumières, sur l'Orient d'une manière générale, l'Orient au sens du 18e, et sur l'islam. Donc ça a donné lieu à plusieurs rencontres, plusieurs réflexions sur la question, et notamment à partir de l'encyclopédie de Diderot. Donc ça a été une piste première, et par la suite j'ai été appelée à présenter au niveau de la société internationale du XVIIIe siècle la représentation, les lectures qui étaient faites des Lumières dans les pays musulmans et plus particulièrement en Égypte et en Tunisie.
Et notamment seconde moitié du XIXe siècle.
Voilà, parce que évidemment les Lumières arrivent tardivement. Les Lumières au sens de la langue, bien sûr, arrivent tardivement dans cette région du monde. Voilà, donc ce qui m'intéressait, c'était ce regard, ce regard l'un sur l'autre, cette altérité, comment elle s'est faite à partir de la Renaissance pratiquement, puisque j'entame aussi le travail à partir du XVIIe siècle, cette perception du monde musulman, du mahométan, comme on disait à l'époque. Et c'est à partir de là que les choses se sont mises en place.
Oui, nous aurons abordé toutes ces questions-là. Mais peut-être, si vous voulez bien, Hadia Wartani Khadar, revenir aux lumières pour les cerner. Peut-on dire d'abord qu'il y a des premières lumières et puis d'autres disent qu'il y a des secondes lumières avec Marx, Nietzsche et Freud, et quelle différence y a-t-il entre les deux, d'une part, et d'autre part, est-ce que de tout temps de l'histoire, il y avait un moment dit de lumière et qu'on redécouvrait comme ça et que ça illuminait, puis on tombe un peu dans les ténèbres, dans l'obscurantisme?
Oui, on peut évidemment élargir, hein, parce que les Lumières ne sont pas spécifiques à une civilisation ou à une région du monde. Les Lumières, c'est quelque chose qui se déplace et il y a toujours ce mouvement des idées. Et évidemment, tout cela est tributaire de la politique, est tributaire des régions, de la géopolitique. Donc, pour moi, ce qui était intéressant, puisque je travaille sur le 18e, c'était ce début de modernité qui a commencé avec la découverte du Nouveau Monde et cette question de l'autre. Et c'est pour ça que j'ai mis le titre « Altérité », parce que c'est vraiment la question de l'autre qui est, pour moi, la clé de toute la réflexion et de tous les articles que j'ai repris ici dans ce livre. L'autre, quand il s'agit de l'Amérindien, c'était un problème. Il s'agit de savoir si c'est un être humain, à la limite. Puis après, il est devenu le bon sauvage, etc. Mais quand il s'agit du musulman, l'approche n'était pas la même. Parce que, d'abord, l'autre, c'était une altérité religieuse, c'était une concurrence religieuse.
À prétention universelle.
À prétention universelle également. Donc, et puis en plus, il y a eu tout ce combat contre. Bon, je sens parler des croisades, moi je n'aborde pas la question, mais c'est toujours l'image donc de l'imposture qui revient, c'est toujours les guerres. Et si on regarde l'histoire de manière globale, tout est ponctué entre 732, donc Poitiers, et 1683, Vienne. Donc le recul des Ottomans à Vienne. Donc c'est vraiment une histoire de rivalité, de guerre, etc. Donc et puis en même temps, il ne faut pas oublier la course en Méditerranée ou dans la littérature, parce que moi je suis littéraire, donc j'ai beaucoup travaillé sur les textes littéraires et notamment le théâtre et le conte, etc. Il y a toujours cette vision du sarrasin, du turc.
Et puis vous faites toute une présentation sémantique sur la barbarie, le barbaresque, etc.
Voilà, absolument.
Est-ce qu'on peut poser la question aussi qu'il y avait des lumières islamiques, notamment lors de la phase ascendante de la dynastie abbasside, de par le contact avec le classicisme athénien, la découverte et la reproduction, la traduction même de la philosophie hellène.
Absolument. Et les philosophes et les Lumières, d'une manière générale, le savent. Et ils le disent, ils l'écrivent, mais ils l'écrivent d'une manière très ambiguë. D'abord, je rappelle que quelqu'un comme un grand auteur français comme Rabelais recommande à Pantagruel de s'initier aux sciences arabes, d'apprendre l'arabe, la langue. Donc c'est beaucoup, hein, c'est dire qu'il y a une transmission qui s'est faite. Et puis dans l'encyclopédie, c'est présenté de manière très difficile à saisir parce que ceux qui s'intéressent par exemple à l'islam dans l'encyclopédie, ils vont voir les articles mahométisme, fanatisme, despotisme. Donc c'est tous des articles aussi qui parlent de superstition, beaucoup de superstition, des sectes. Alors il y a entre 2 et 70 sectes. Il y a des choses absolument incroyables. Et puis que moi j'ai vraiment lu de manière systématique pratiquement tous les articles et j'ai trouvé par exemple l'article bibliothèque, hein, l'article bibliothèque qui n'est pas du tout un article que l'on irait chercher pour s'initier sur ce qui se passe dans le monde musulman, eh bien l'article, les trois quarts de l'article parlent des bibliothèques arabes et notamment celle de Cordoue et celle de Et toute cette science arabe avec tous les noms, tous les grands, Ibn Sina,
Ibn Rushd, en Avicenne et en Averroès.
Oui, absolument, Avicenne. Et toute cette science qui est un véritable trésor qui a transmis évidemment les lumières et qui a aussi ajouté puisqu'il y a aussi beaucoup de travaux nouveaux, de recherches que les arabes ont apporté à la science et à la connaissance.
Alors vous commencez votre ouvrage, vous le faites remonter, en réalité les choses sont bien antérieures, à l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, quand il donne ordre de traduire le Coran au milieu du XIIe siècle, on est en 1142-43, lors de son passage à Tolède. Et là, c'est pour fondre l'imposture. Et par la suite, comme vous le dites si bien, peut-être qu'on a reconnu cette fameuse translatio studiorum,
oui.
La translation dans les deux sens de l'acception, à la fois un déplacement mais aussi une traduction. Comment, par la suite, cette vision négative va devenir un peu plus amène?
Eh bien, d'abord par l'humanisme de la Renaissance, la libre pensée, l'érudition, la création d'écoles et de langues. Et évidemment, tout cela va contribuer à... puis les récits des voyageurs, enfin, il y a beaucoup d'éléments qui vont... l'apaisement aussi, parce que la course commençait déjà à décliner, il y avait une reprise sur le plan politique de l'Europe. Donc il y avait une lecture nouvelle qui va se faire à partir des textes. Par exemple, le Coran va être traduit intégralement. Il va y avoir plusieurs traductions qui ne sont pas toujours évidemment très bonnes, mais ça va jusqu'à celle de Boulainvilliers, je sais même de Savary, à la fin du XVIIIe siècle. Et puis la traduction aussi des encyclopédies, la Bibliothèque orientale de Barthélemy d'Herbelot, ou les contes des Mille et Nuits, par Galland, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses qui vont faire connaître cette civilisation musulmane de l'intérieur, sur le plan historique et sur le plan évidemment, de la pensée, de l'imaginaire aussi. Tout cela va contribuer à une connaissance de l'Orient différente,
oui.
De l'Orient musulman, bien sûr. Et persan, oui.
Pour vous, la date de 1683, plus exactement le 12 septembre lors de la bataille de Calenberg, donc qui met fin à la peur et à la suprématie du Grand Turc, enfin de l'Empire ottoman, ouais. Et de ses prétentions sur le continent européen, c'est aussi un tournant, même s'il reste des velléités. De piraterie, de course, parce que la course des uns est la piraterie des autres. Donc.
Ouais, tout à fait, non, c'est une date butoir, mais tout ne s'arrête pas dans l'histoire. Les choses ne s'arrêtent jamais de manière...
Vous évoquez le cas de Saint-Vincent de Paul et sa
oui.
Capture réelle ou supposée à Tunis.
Oui, imaginaire. Donc les choses vont continuer pendant... Et puis ça va devenir un thème littéraire. Un procédé narratif, c'est bien de situer dans cette zone du monde. Au XVIIe siècle, je parle de Madame de Villedieu aussi, qui situe, tous ces écrivains situent leur action, sans parler de Molière, évidemment. Qu'allait-il faire dans cette galère? Enfin, cette réplique que tous les lycéens connaissent, etc. Donc, il va y avoir quand même... On va maintenir sur le plan littéraire cette peur, même si réellement elle n'est pas présente, puisqu'il n'y avait pas de présence sur le sol européen de musulmans, sauf évidemment les corps diplomatiques. Mais là, il n'y avait pas une peur de proximité, si je puis dire.
Oui, et j'étais surpris de voir que vous avez mis dès 1710, donc Leibniz, que son regard qui était sévère sur le fatum mahométanum tel qu'il lui a été présenté, donc le fatalisme inhérent, selon sa compréhension à ce moment-là, de l'enseignement prophétique, qu'il a dû changer d'avis pour que dans la théodicée, le regard est devenu un peu plus positif.
Il faut dire aussi que à la date 1683, moi j'ajouterais 1685, la révocation de l'édit de Nantes et tous les problèmes religieux qui avaient lieu en France, surtout. Bon, en Angleterre aussi, mais en France, il y a le problème donc du protestantisme, il y avait le problème aussi les querelles entre les jésuites et les jansénistes, il y avait toutes les superstitions qui étaient combattues, etc. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le 18e siècle de l'intérieur et toutes ces affaires, dont la plus célèbre, évidemment, l'affaire Calas, mais il y avait l'affaire de Prades, il y avait d'autres affaires qui étaient aussi importante, aussi grave. Évidemment, tout cela va contribuer à donner de l'islam des visions biaisées. Les libres penseurs vont reproduire, par exemple, le traité des trois imposteurs. Ils vont mettre les trois prophètes dans ce débat des trois imposteurs. Les protestants vont, j'allais dire, utiliser ou instrumentaliser l'islam pour en faire une religion qui n'a pas d'église, qui est naturelle, qui n'a pas besoin d'intermédiaires. Les philosophes également vont l'utiliser pour dire voilà, la courbe de l'histoire, les musulmans sont arrivés à un sommet extraordinaire et puis quand ils ont abandonné la raison, etc., voilà ce qui leur arrive. Et nous, Européens, c'est le contraire. On part de l'obscurantisme pour aller vers les lumières. Donc il y a une courbe croisée qu'ils mettent en place.
Et une sorte d'inversion.
D'inversion,
aussi.
Exactement, d'inversion.
Que nous verrons, pardon, je vous ai interrompu, aussi par rapport à l'appréciation qu'on a sur l'élément féminin dans la société.
Oui, on m'a reproché d'ailleurs d'insister sur cet élément féminin, même depuis le XVIIe siècle.
C'est à juste raison, de mon point de vue.
Oui, beaucoup m'ont dit, oui, mais c'est trop orienté sur la femme. Je dis, mais une des altérités les plus importantes, c'est celle de la femme.
La fameuse altérité radicale, parce voilà. Qu'il n'y a pas plus autre.
Voilà. Absolument. Donc, et là, c'est vraiment un problème qui se pose. Quand au XVIIIe siècle, on va parler de la femme, on va parler de la femme orientale, en fait, on reprochait à tout ce qui se passait en France au niveau du statut de la femme. Moi, j'ai un article, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas, à propos des lettres persanes, j'ai les lettres persanes, comme j'ai une formation de sciences politiques, donc je fais des lectures, que ce soit des Mille et Nuits ou des lettres persanes, de manière différente des littéraires.
Nous y reviendrons, mais vous dites à juste raison que les Mille et Une Nuits peuvent être considérées aussi comme... Le miroir des princes.
Ouais, absolument, absolument. Ça, c'est vraiment, moi, je le vois comme ça. Et je l'explique, je montre que Shahrazad est une femme savante et politique. C'est pas du tout une femme, une ensorceleuse ou une conteuse.
Qui voulait sauver sa vie,
non? Ouais, non.
N'est pas là.
Non.
قصوان السيمي تقدم لكم الشيخة الريميتي الحقانية والكساسبة مختار الفرندي والقمامة والشيخ بوعلام البوشيخي والهذي خاطر الأحباب اللي يحبونا.
الحقنيه ايراني غاد يا مين اثمر في الحقنيه درت لك تليفون ماري باندا اشراني غاد يا مين اثمر في الحقنيه ايراني شوارع مين اثمر في الحقنيه.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Oui. Aujourd'hui, nous parlons de l'Aufklärung, des Lumières et de la civilisation islamique. Les Lumières et l'Islam, quelle altérité pour demain? Pour vous, Hadia Wartani Khaddar, la question de l'altérité est centrale dans les rapports entre les personnes, entre les groupes humains. Et vous êtes, je le dis pour les auditeurs, donc diplômé de sciences politiques, certes, et docteur d'État et lettres, vous êtes professeur émérite de l'université de Tunis, professeur associé aux universités de Rouen, de Grenoble et de Paris 3, et vous êtes aussi directrice de la collection classique francophone chez l'éditeur L'Harmattan. Poursuivons ensemble. dans cette deuxième partie de l'émission. Vous consacrez une bonne partie de l'ouvrage aux états barbaresques, à ce qualificatif et à la barbarie. À juste raison, Montaigne dit on appelle barbare ou on nomme barbare ce qui n'est pas de son usage. Mmh. Donc, et vous dites que ça n'est pas délimité géographiquement.
Oui, oui.
Des échelles du Levant à, au port d'Afrique du Nord, on ne sait pas. Vous avez fait une investigation pour ne pas savoir auprès de ce qui projette le qualificatif de barbarie, la topographie des lieux n'est pas aussi précisée.
Non, c'est une barbarie imaginaire, comme je dis, c'est un lieu imaginaire. En fait, c'est la mer Méditerranée, mais c'est un peu partout. Hein. C'est-à-dire que là où il y a ce qu'on pourrait appeler l'ennemi, là où on peut avoir des captifs, etc., c'est la barbarie. Donc, et le terme barbare, barbarie, barbaresque, on dit barbaresco, ça vient d'italien, c'est l'autre, mais l'autre dans le sens ennemi, dans le sens qui fait peur. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place depuis le XVIIe siècle, c'est la peur de l'autre qui va se transformer petit à petit en fascination de l'autre. Quand on pense au succès des Mille et Une Nuits et de toutes les suites qui ont été faites des Mille et Une Nuits, c'est absolument incroyable, de la même façon que les lettres persanes, avec toutes les suites, tout ce qu'on a pu rêver, imaginer.
Fables animalières.
Et les fables animalières, etc. Donc, il y a à la fois une peur, une fascination qui est constamment présente. Et moi, ce qui m'a interpellée, ce qui m'a un petit peu poussée à reprendre toutes ces études, c'est parce que j'ai retrouvé ce mécanisme de peur et de fascination à la fois. On en parlera tout à l'heure chez les réformistes musulmans. Et aujourd'hui, que ce soit en Europe, il y a une peur et une fascination. Et puis chez les révolutionnaires, entre guillemets, du monde arabe, les nouveaux révolutionnaires du printemps arabe, il y a aussi cette peur de l'Occident, mais aussi ce rejet aussi. Et cette fascination, c'est le même mécanisme.
Oui, le couple répulsion, fascination, voilà. Ou aversion, attraction, voilà. Joue toujours.
Il est toujours présent et il a vraiment une. On le trouve. Il commence pratiquement au XVIIe, XVIIIe siècle et c'est un mécanisme qui est toujours là.
Je le dis sous votre contrôle. Hadia Wartani Khadar, certains disent que ça remonte du temps du Barbaros, celui qui parle une langue étrangère, à distinguer du Xénos, voire du Métèque, du temps de la cité grecque. C'est l'autre étranger fascine, mais fait peur aussi. Donc,
ouais.
Et là, c'est parce qu'on a des contacts. Alors, vous avez cité les Mille et Une Nuits. Revenons à ce que je disais tout à l'heure. Vous y percevez véritablement un miroir des princes, une manière de donner des conseils. Vous parlez même d'une parrainèse, une parrainétique royale. Qu'on trouve dans les Mille et Une Nuits pour que le prince, d'une manière générale, puisse être guidé par ses exhortations. Et donc, Scheherazade a joué ce rôle.
Oui, moi, je l'ai lu comme ça. Scheherazade, d'abord, c'est pas n'importe qui, c'est la fille du grand vizir et elle a reçu une éducation. Et en même temps, elle est rebelle. Elle ne veut pas obéir vraiment à son père et elle veut affronter le prince et elle va jouer un rôle politique. Et elle va réussir puisque d'une nuit à l'autre, elle va faire changer le prince avec des contes qui illustrent bien des leçons. Je donne quelques exemples de leçons politiques.
On est... Si vous me permettez le terme, en uchronie, l'uchronie c'est un peu comme l'utopie, sauf que c'est pour le temps.
Ouais.
Et ça culmine avec Haroun al-Rachid, le cinquième calife abbasside, et peut-être aussi avec son fils al-Ma'mun. Et là, il y a une conception du bonheur, il y a une société du plaisir, de l'émerveillement, de la félicité, dès ici-bas. On n'attend pas d'aller au ciel pour y jouir.
Oui, tout à fait.
Et ça, ça a fasciné donc, nos amis, les encyclopédistes.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on retrouve cette image dans, à la fin de Candide, quand il parle du bon musulman. Il fait le tour du monde, il voit que des catastrophes. Et quand il arrive à Constantinople, à Istanbul aujourd'hui, eh bien, il va rencontrer d'abord le derviche, puis après le bon musulman qui va lui donner une leçon. Il faut cultiver notre jardin. Et notre jardin, c'est la terre, c'est ici-bas, c'est le bonheur ici-bas.
Alors,
c'est une belle leçon venue du bon musulman qu'il appelle. On est vraiment dans un contexte...
Oui. Certains pinailleurs sur le vocabulaire disent qu'il vaut mieux que l'épithète « bon » vienne après « musulman » qu'elle vienne avant. Donc autant avoir des musulmans bons, de la bonté et de la miséricorde, que d'avoir un bon musulman, c'est-à-dire le parangon de ce qu'il faut être selon les canons bien établis. Une question désormais classique. Lors des querelles, et parfois le mot querelle est un doux euphémisme, dû à des stupidités en réalité, on dit que Voltaire était sévère vis-à-vis du prophète de l'islam, mais en réalité c'est qu'il l'utilisait, si je puis dire, comme un ricochet pour fondre la société régie par l'Église en son temps.
Oui, pour Voltaire... L'infâme, c'était l'Église, c'était pas la religion, parce que lui, il était déiste. Et d'ailleurs, pour lui, l'islam est proche de la religion naturelle. Mais c'est vrai que les philosophes, d'une manière générale, d'ailleurs, utilisaient l'islam ou d'autres philosophies ou religions pour... C'est un peu l'effet du canon, du fusil à canon recourbé, c'est-à-dire que c'est vraiment pour attaquer leur propre société. Et il faut rappeler que la pièce intitulée Mahomet, ou fanatisme, était adressée au pape, elle n'était pas adressée du tout aux musulmans. Et le pape ne s'y est pas trompé, il va l'interdire aussitôt, il a compris.
Et Voltaire avait une horreur quasi physique du fanatisme. Il tombait malade, il était alité à la Saint-Barthélemy.
Ah oui, oui, tout à fait.
Dans la nuit du 24.
Du 24 août, il était en sueur. Moi, je connais bien ça parce que mon professeur de thèse, c'était René Pommeau. Et c'est lui qui a travaillé beaucoup sur la religion de Voltaire. Donc, chaque fois que je le voyais, il me parlait de la Saint-Barthélemy et de Voltaire en sueur.
Et l'étymologie venant du fanum, ce délire qu'il y a au sein du temple, et le fanatisme est à la religion ce qu'est la rage est à la maladie ou quelque chose comme ça.
Oui, je cite. Mais il y a aussi, il faut rendre justice à Voltaire parce que ça c'était vraiment une arme pour lui pour lutter contre le fanatisme et contre l'Église surtout. Mais quand il s'agit de parler en historien d'évaluer l'histoire de l'humanité dans son ensemble. Et les chapitres dans l'essai sur les mœurs rendent justice à cette civilisation, cette grande civilisation islamique. Et même au prophète, il dit que c'est un grand législateur, etc. Donc il n'y a pas de... là, il parle en historien et essaye de faire la part des choses.
Et plus tard, Alphonse de Lamartine, se fondant aussi sur ces passages, disait que, de mémoire, comment peut-on comparer humainement quelqu'un à Mahomet si les marques du génie sont la grandeur du dessein, l'immensité du résultat et la petitesse des moyens? Comment peut-on imaginer pouvoir comparer humainement un homme à Mahomet? Il n'était pas Dieu, il était plus qu'un homme, il était prophète. Alors maintenant, si vous voulez bien, Hadia Wartani Khadar, inversons le regard. Comment ces suites donc à l'expédition de Bonaparte, à la campagne de 1798-1801, qui va y avoir ce choc quasi physique entre l'Orient et l'Occident, pour faire simple. Et c'est là où, du côté islamique, on se rendra compte d'un véritable retard accusé.
Oui, alors, ça c'est évidemment c'est ce que disent tous les historiens. Et on a besoin de leurs travaux, évidemment, pour penser l'histoire des idées, parce que mon travail porte plus sur l'histoire des idées. Il me semble que l'altérité pour les musulmans, jusqu'au début du 19e siècle, l'autre, c'était le kafir. C'était
le mécréant.
Le mécréant. C'était le mécréant. Et il y avait la terre de la paix, la terre de la guerre. Le monde était divisé. Il y avait évidemment les protégés, les ennemis, les religions du livre qui étaient protégées.
Vivant en contexte islamique.
Voilà, vivant en contexte islamique, qui avait un statut particulier. Ils n'étaient pas vraiment égaux, mais ils avaient un statut particulier. Et puis, tout d'un coup, début du 19e siècle, l'autre, ce n'est plus seulement le mécréant, c'est autre chose. C'est celui qui vient, qui arrive avec un savoir, avec des connaissances, des techniques, et puis aussi une armée, etc.
Bien discipliné.
Bien discipliné. Et des canons, des scientifiques, une imprimerie, etc. Donc l'autre, c'est vraiment le choc, vous avez dit le mot, c'est un choc des lumières. Donc, cet autre n'est plus du tout le mécréant qu'on ne veut même pas entendre parler. Donc l'autre est devenu autre chose. Et cette altérité est nouvelle. Donc ce qui va susciter d'ailleurs tous les voyageurs. Parmi les premières délégations, moi je parle des premiers, surtout de Tahtawi et de Khayreddine en Tunisie. Donc au 19e siècle, il va y avoir plusieurs voyageurs qui vont faire ce voyage en Europe, qui est devenu non pas une guerre, mais un voyage d'apprentissage, enfin, de connaissance. Et ça, c'est très important pour changer les mentalités, puisque de retour, ils vont essayer de proposer des réformes, qui vont dans le sens des idées de Montesquieu, de Rousseau, mais aussi des réformes sur le plan scientifique aussi, sur le plan chemin de fer, l'armée, les institutions. Bon, là, c'est vraiment quelque chose qui va bouleverser ce regard sur l'autre. Et il y a beaucoup d'écrits, des écrits que moi j'ai beaucoup aimé, c'est celui de Khayreddine sur les essais sur les réformes nécessaires aux États musulmans. Et chaque mot a son poids, réforme nécessaire. Donc pour sortir de cet état de décadence, si je puis dire, il faut faire cela, il faut changer les institutions, il faut donner plus de liberté, il faut aussi les femmes donner l'éducation aux femmes, il faut introduire les sciences dans les... Et on a vu, par exemple, proposer l'étude des mathématiques, des sciences dans les institutions comme l'Azhar, comme la Zitouna, etc. Donc voilà, donc c'est ça qui est nouveau, c'est ça. Cette altérité va devenir non pas... c'est un combat religieux, mais un combat scientifique et institutionnel.
Nous aurons à revenir assurément sur Khayreddine et surtout avec cette idée fondamentale. C'est le cas de le dire quand il veut avoir une loi fondamentale positive, une émanation rationnelle à côté de la loi d'inspiration religieuse. Mais si vous voulez bien, Hadia Wartani Khadar, disons un mot sur quand même Araf Alefa Tahtawi,
oui.
Parce que c'est un Azharien, quelqu'un qui est de l'université Al-Azhar, sur ordre du Khédive, Il est dépêché à Paris. Il est né en 1801 de mémoire, mais vers 1826, donc un jeune homme de 25 ans, viendra à Paris, il sera fasciné par la ville des Lumières, là aussi.
Tout à fait. Ouais.
Et il écrira donc L'Or de Paris.
Oui. Ouais. D'abord, il ne vient pas seul, c'est une délégation. Hein. Lui, il est le chef de file. Et
c'est un peu comme l'aumônier, si je puis dire, de la dite délégation.
Voilà. Et il est curieux de tout. Il va commencer par, avec son équipe, à traduire aussi.
C'est Télémaque. Ça qui est,
il va traduire Télémaque, il va traduire Montesquieu, il va traduire Rousseau, le contrat social, tous ces textes qui sont des textes fondamentaux. Et il va aussi visiter alors tout ce qu'il peut. Il va partout. Il s'initie à tout. Il va dans les bibliothèques, il va dans les fonderies, il va partout. Et les chemins de fer, il veut tout savoir. Il consigne tout par écrit. Et de retour, il va jouer un rôle dans la mesure où il va dire, voilà, pour sortir de l'état où nous sommes, voilà ce qu'il faut faire. Il faut aller vers le progrès. Donc l'idée de progrès est très importante. Et il va proposer des réformes.
Oui. L'imprimerie, le feuilleton imprimé, tout un mouvement romanesque, la littérature, la poésie, une introduction plus tard du théâtre, etc.
Tout, oui. Tout ce qu'il a pu voir à Paris, l'a séduit. Il y a vraiment une fascination, là, du progrès et de ce qui se passe. Bon, il y a quelques, par exemple, quand il s'agit des femmes, il y a quelques petites réserves.
Il comprenait pas le manque de jalousie, en quelque sorte, des hommes qui laissaient leurs épouses aller danser avec d'autres messieurs.
Voilà, des petites choses comme ça. Mais la plupart du temps, il est réellement. Et puis, ce qui est important, c'est ce grand mouvement de traduction. C'est-à-dire qu'on a là encore l'équivalence de ce qu'on a dit tout à l'heure sur les hommes des Lumières qui vont traduire les encyclopédies arabes, etc. Là, on a l'inverse.
C'est la fameuse translation studiorum qui revient.
Exactement. C'est le retour des choses. Oui. Voilà.
Et L'Or de Paris, c'est en réalité un résumé d'un ouvrage dont le titre est résumé Paris dans la quintessence ou quelque chose comme ça de l'or, voilà. Puisqu'en arabe, Paris et or riment aussi. Hadia Ortani Khaddar, revenons maintenant à cette figure tout aussi fascinante et à laquelle non seulement le peuple tunisien, mais les peuples musulmans lui doivent beaucoup, c'est Khayreddin. Donc avec le constitutionnalisme, à ce moment-là, la Tunisie est un état vassal de l'Empire ottoman, on va dire les choses comme ça. Oui. Mais cette initiative est extraordinaire dans le premier sens du terme.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a un mouvement qui vient de l'intérieur, qui est immanent, qu'on retrouve chez Tahtavi, qu'on retrouve chez Khayreddin, qu'on retrouve même en Turquie. Il y a un mouvement de l'intérieur.
Intrinsèque, sui generis.
Donc oui, c'est des gens qui voyagent et qui voient et qui cherchent vraiment. Et puis il y a les événements et les pressions extérieures, donc pour aller vite, qui vont également susciter et provoquer, si je puis dire, des nouvelles institutions. Et c'est ce qui est arrivé, par exemple, avec le pacte fondamental. Bon, il y a eu un événement, c'est l'événement de Batous Fez, donc, qui va être le déclencheur, si je puis dire, de ce pacte fondamental qui sera suivi d'une constitution en 1861, donc une des premières constitutions du monde arabe.
Et mais, qui était concomitante à des constitutions en Bulgarie ou en Hongrie, notamment en Bulgarie. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de tardif.
Non, parce qu'il y avait aussi les Tanzimat en Turquie. Donc, c'était une période où il y avait...
Qu'on pourrait traduire par organisation.
Voilà.
Donc,
régime. Donc, il y avait une volonté de changement, qui a été plus ou moins soutenue par les puissances étrangères. Je n'ai pas la peine d'entrer dans les détails. Mais il y avait ce mouvement, donc, qui s'est déclenché. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce mouvement, c'est fait un peu par le haut. Le peuple, s'il m'est permis de parler de peuple, enfin, disons que la population, d'une manière générale, ne suivait pas et n'était pas assez alphabétisée également pour suivre, pour comprendre ce qui se passe. Donc, il y a eu tout de suite, après la colonisation, qui a pris en charge.
Et qui a provoqué la profonde léthargie aussi.
Voilà. Donc, et qui a pris en charge aussi, avec son projet de civilisation, de faire changer les choses. Mais en fait, bon, c'était encore une autre histoire.
Parce que du statut de l'indigéna,
voilà,
on va passer à un statut de sujet de la République, ce n'est plus de l'Empire. Et vous le dites aussi dans votre ouvrage, on va avoir des gens qui vont se révolter parce qu'ils prendront conscience que la colonisation a trahi les idéaux de la Révolution.
Voilà, et puis en plus, ce qu'on leur enseignait ne correspondait pas du tout à leur situation. Donc, ça ne pouvait pas durer. D'où toute cette élite. Là encore, ça vient par un peu le haut. C'est l'élite qui va devenir nationaliste et qui va chercher à s'émanciper.
Question d'islam. Aujourd'hui, nous parlons des Lumières et de l'islam, de l'Aufklärung et de la civilisation islamique, avec Hadia Wartani Khaddar, qui a écrit ce livre, Les Lumières et l'islam, quelle altérité pour demain, aux éditions L'Harmattan, où vous dirigez, Hadia Wartani Khaddar, une collection classique francophone. Et puis, vous êtes professeur émérite de l'Université de Tunis, et professeur associé aux universités de Rouen, de Grenoble et de Paris 3. Et vous êtes aussi diplômé de Sciences politiques Paris. Hadia Wartani Khaddar, parlons maintenant pour cette dernière partie de l'émission des conséquences de tout cela, parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi maintenant, sur le printemps arabe. Le printemps arabe avait comme mot d'ordre « dignité et liberté ». Il n'y avait pas des mots d'ordre de type religieux ou de quelque ordre que ce soit. D'ailleurs, qui dit arabe ne dit pas nécessairement islamique. L'élément arabe y est central, certes, mais il n'épuise pas l'islamité. D'ailleurs, à ce sujet, quand nous parlions de Khair ed-Din, n'oublions pas la révolution constitutionnelle en Iran de 1906 aussi. Donc, ce mouvement d'émancipation et de modernisation était aussi sous d'autres obédiences, pas nécessairement sunnites. Et alors, pour les intellectuels, les promoteurs, les initiateurs, ceux qui ont pris en charge, en l'investissant intellectuellement, ce printemps arabe, c'est aussi une idée des Lumières ou quelque chose qu'il faut réactualiser totalement?
Le printemps arabe, par les intellectuels, il a été vécu comme un rêve qui se réalise. Pourquoi ? Parce que nous avons vécu avec l'idée qui était présentée surtout par Montesquieu que les pays musulmans ne peuvent pas vivre autrement que dans un régime despote. Il faut gouverner par la crainte. Ouais. l'histoire d'Uzbek. Et bon, tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de terminer sur les lettres persanes. C'est vrai que l'histoire d'Uzbek est représentée comme le despote. Et à la fin, quand son sérail se révolte, là, les femmes du harem se révoltent, il dit à son premier eunuque qu'il faut frapper fort. Et là, ce qui m'a le plus moi intéressé, c'est la dernière lettre qu'écrit Roxane à Uzbek. Pour lui dire, moi j'ai toujours contourné les lois, j'ai fait semblant, mais je ne suis pas d'accord. Enfin, en gros, hein, je ne cite pas le texte, mais le dernier mot qu'elle écrit, je préfère la mort, la liberté ou la mort. Et elle se suicide. Et comment cette révolte vient des femmes aussi? C'est ça, là encore, le lien avec les femmes. Donc, le printemps arabe...
Rien de grandiose ne peut se faire sans les femmes, selon un vieil adage.
Oui, et le printemps arabe s'est fait en partie avec les femmes. Les femmes ont été, surtout, et là je voudrais quand même préciser sans chauvinisme que ça a commencé en Tunisie. Et pourquoi? Bon, parce que d'abord, il y a un statut des femmes qui a donné cette possibilité aux femmes... d'étudier et de comprendre.
Et une conscience politique.
Et une conscience politique et aussi une présence. Parce que dans la rue, les femmes étaient présentes. Ce n'était pas une révolution de jeunes garçons ou d'hommes. C'était femmes et hommes. Elles étaient sur les épaules, elles étaient présentes, elles étaient là. Donc, et puis... des femmes, tout niveau confondu. Il y avait des avocates, des professeurs, des ouvrières, enfin, toutes les femmes, grâce à l'éducation qui a été mise en place depuis l'indépendance, grâce à la politique de Bourguiba. Donc ça aussi, c'est important. Et les mots d'ordre, les devises, tout ce qu'on voyait écrit, c'était « plus jamais peur », c'était... liberté, dignité, et ces mots sonnaient comme quelque chose qui...
Justice sociale.
Donc tout ça, évidemment, faisait partie de toute une culture, mais qui n'était pas bonne pour nous. Elle se passait ailleurs, mais ne pouvait pas exister dans les pays arabes. Et pour la première fois, la rue arabe parlait de liberté. Et dans la rue, et c'est le peuple, c'est pas l'élite, c'est pas Khayreddine, c'est pas Bourguiba, c'est pas l'élite, c'est dans la rue. Et là, j'ai relevé quelque chose qui est peut-être anecdotique. J'ai relevé tous les marqueurs de la liberté. Comment on prend la Marianne, on lui met un drapeau tunisien, la statue de la liberté avec un drapeau. Enfin, le drapeau tunisien revêt tous les symboles, si je puis dire, de la liberté. Et même ceux qui n'avaient pas une formation très poussée entendaient le mot liberté, donc ils le traduisaient en arabe, hurriya, etc. Mais aussi liberté. Liberté avait une connotation autre que hurriya. Et sur les murs... Et
les graffitis, vous parlez du street art.
Et les graffitis, ils écrivaient « liberté ». Liberté, c'est en dialecte.
On a arabisé,
voilà.
Le terme « liberté ».
Et c'est écrit avec sans « i », sans « liberté ». Et ça, c'est quand même fort, hein, à quel point ce désir de liberté était très fort. Et là, je crois que l'éducation a joué un rôle. Et c'est vrai que le réformisme a commencé en Égypte, ensuite il est passé au Maghreb. Et là, là aussi, on a un mouvement inverse. La révolution a commencé en Tunisie, elle est passée 3 semaines après en Égypte, avec les mêmes slogans pratiquement.
Vous pensez que l'exemple tunisien est un exemple paradigmatique de la sortie de crise, malgré les soubresauts, les convulsions parfois paroxystiques, malheureusement du terrorisme abject, mais la marche est bien entamée et de fait, comme le dit Aboul Qassem Chabi, le poète, donc l'aube finira par advenir et l'obscurité, la nuit, disparaître.
Je pense qu'il y a un processus qui est bien entamé, mais il faudra du temps. Moi, j'essaie d'avoir toujours une vision globale. Je vois, par exemple, qu'en Europe, la modernité a commencé avec la Renaissance, au XVIe siècle, et il a fallu attendre 2 siècles pour avoir les Lumières et ensuite la Révolution. Et nous, la Renaissance, elle a commencé au XIXe, donc il faut du temps pour arriver.
Certes. Pas nécessairement 2 siècles peut-être à l'ère de la mondialisation,
oui, absolument.
Mais il faut
oui,
du temps.
Ça je dis avec le web maintenant, avec la circulation. Mais ce qui est intéressant avec ce qui s'est passé, c'est que le débat a enfin lieu. C'est-à-dire qu'on commence à parler ouvertement de ces questions. Moi je sais que par exemple mes travaux, je les ai faits en marge de l'université. C'était presque en catimini. Parce que on me disait toujours, oui, mais nous, on enseigne le français, la littérature. Qu'est-ce que tu parles de l'islam, que c'est pas le problème. Bon, évidemment, on n'a pas tous le même point de vue. Mais en même temps, lorsque la révolution est arrivée, j'avais l'impression de vivre quelque chose que j'avais déjà étudié et qui se remet en place. Il faut du temps, oui. Il faut aussi trouver les moyens. Moi, je crois qu'il y a aussi des voies qui sont celles de l'art, par exemple. C'est pour ça que je parle du street art, mais il y a aussi d'autres formes artistiques. Parce que l'art laisse de côté la parole, mais...
Il y a aussi l'expression de l'ineffable.
Voilà, laisse de côté et permet aux gens de se retrouver autour de quelque chose qui marque, qui parle de l'émotion, qui parle du ressenti, qui parle des sentiments, etc.
Et peut-être qu'avec cela, la séquence de l'islamisme politique sera derrière. Il y aura peut-être d'autres soubresauts, mais pas nécessairement confessionnalisés. Merci beaucoup. Merci infiniment, Hadia Wartani Khaddar.
Merci
d'être venue nous instruire. Et en nous parlant de cette connexion entre les Lumières, au sens de l'Aufklärung et de l'islam, écrit avec grand I, I majuscule, donc de la civilisation. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Olivier Dupré. Et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franklin.
Rimka, sniper, Idir, Bled Bled, Kor, Belek.
Ici ou là-bas, Rabat, Tizi, Tunis, Alger pour les Wild Bled.
Algérie, Maroc, Tunisie, pour la famille, pour la vie. Bismol, Bled Bled.
De Marseille à Ripa, de la part au Filtri, quoi qu'il arrive, on reste tous des Wild Bled.
Algérie, Maroc, Tunisie, pour la banlieue, pour le Bled, Bismol.
Yeah. frère de ma terre d'accueil, frère. Je vis à Deuil, même si j'ai grandi sur Paris. Je reste le fils de ma mère, le fils de mon père. Asma, moi, je reste Will de Blaise. Ça va du Zoulou aux Zoulettes, du poulet aux poulettes, de la porte d'Italie à la Villette. Ça va des babouches aux claquettes, du tagine aux boulettes, le pnet aux loulettes, de Zarzis à la roulette.
Je n'ai pas changé, je suis resté le même étranger, le même chien qui tarde un peu trop à se ranger, le même Jaoui qui mène sa vie du mieux qu'il peut, même s'il se sent pas chez lui. J'essuie les défaites, défaites mes victoires, qui sont vite gâchées car ma vie est faite d'histoire. Qui tiendrait pas dans un 16 déraciné, car né ici, mal assis entre deux chaises.
Ça, le plus précis, c'est comme traîner un boulet au bout de la jambe. On regarde que ta gueule et tes gens t'allument pour la banlieue, les dalles. La part Miss Moul Salem, soldat du bled, pour que la communauté s'élève. Hey, combien regrette après avoir bu au bled, on dit la tour Eiffel, vaut mieux jamais l'avoir vu. La dalle donne le signal d'alarme, on s'étonne nous-mêmes, pense aussi mal. La joie de Sem, c'est médicinal. Pour les montagnes de Kabylie, Algérie, Maroc, Tunisie, Wabé, Barbacha, Balem, Mustapha, Sofiane, Capritou, Aïe, Tunisiano, Aketo, Remja, Idir, Kor, Belek, Artom, c'est la famille ça.